Il neige depuis le matin. Des flocons minuscules qui recouvrent lentement mon ancienne vie. Je me suis aménagé une chambre sous les toits, dans une petite pièce mansardée. Puis, j'ai transformé le grenier en chambre noire. Au premier, la cuisine est ouverte sur le salon. Du papier peint rose délavé, des meubles en bois sur un plancher qui grince. Des chandeliers en bronze et des tableaux au cadre doré. Une vierge en pleurs face au rocking chair immobile. Quelques poupées en porcelaine, une bibliothèque de livres usés. Les fenêtres sont divisées en petits carreaux teintés qui salissent la lumière. Chaque objet est resté à sa place. Sur le bord de l'évier, la tasse du dernier café de monsieur. Son manteau au porte-manteau, ses pantoufles au pied du canapé, le balancier de l'horloge qui compte les secondes jusqu'à sa mort. Devant la cheminée, les rois maudits, figés à la page 172, reposent à côté de ses lunettes sur leur guéridon en bois de cerisier. Sur la table de la salle à manger, sa serviette avec son prénom brodé, prête à la place qui restera la sienne pour le petit déjeuner. Accrochée au mur, la photo de leur mariage. C'est un vieux tirage en noir et blanc. Je ne les reconnais pas, même en imaginant. Elle a les cheveux tressés et une longue robe compliquée qu'elle avait cousue elle-même. Lui porte un costume. Ça se voit qu'il était élégant. Ils se tiennent droits et souriants. Ils ont 20 ans et envie de s'aimer toujours. Je les regarde chaque soir avant de monter. Monsieur Martin est tombé au pied de la cheminée. Ça fait 5 ans. Il s'est agrippé au divan, puis il a flanché. Madame était en train de préparer des pains perdus. Elle a appelé les secours. Les pains perdus ont cramé. Monsieur est devenu un légume. Elle n'a jamais voulu le lâcher. Elle veut continuer à l'aimer. Je vérifie l'heure. En bas, elle m'attend. On a passé la journée à préparer des verrines de toutes les couleurs. Elle m'apprend à cuisiner. Je les rejoins dans leur chambre. Elle m'accueille avec une bouteille de champagne, installée à côté de monsieur qui est resté en pyjama. Elle est vêtue d'une robe de bal rouge foncé, recouverte de milliers de petits disques en métal qui la font scintiller. Sur la table de nuit, un seau à glace et 3 coupes en cristal. C'est notre premier réveillon ensemble. On laisse refroidir le champagne. J'accroche une guirlande lumineuse au plafond. Puis, on s'occupe de monsieur. On lui enfile son costume des grandes occasions. Une chemise blanche à plastron et un smoking en laine rayée avec des boutons de corne. Un nœud papillon en satin noir, une touche de parfum. Il est beau, comme un amoureux. Elle place une coupe entre ses doigts. Je fais péter le bouchon. On trinque à l'année qui se termine. Tu vas voir comme on va s'aimer. Je m'assieds devant le miroir de la coiffeuse. Elle recouvre ma cicatrice d'une couche de fond de teint. Puis, elle maquille mes paupières. Il faut choisir, les yeux ou la bouche. Les deux, tu ressembles à une pute. J'observe son reflet pendant que ses longs doigts musclés s'agitent dans mes cheveux. Elle s'applique, la tête légèrement penchée. Je suis la première personne qu'elle touche en dehors de monsieur. Ça te plaît ? Elle m'atteint les cheveux. Ils sont au burn. Ça me plaît. Elle passe en revue sa garde-robe. Déshabille-toi. Je vire mon fut. Elle examine longuement mon corps, une coupe de champagne à la main. Elle se demande si je leur serai fidèle. J'enfile une robe noire à manches longues, ouverte dans le dos, puis des chaussures noires à talons. Elle redresse mes épaules. Je me regarde dans le miroir. J'ai l'air d'une dame. Elle attache autour de mon cou son collier en pierre de lune que monsieur lui a offert pour leur 14e anniversaire de mariage. J'étais sûre qu'il suffisait de t'arranger. On ouvre une autre bouteille. Je lui fais un défilé. J'essaie toute sa garde-robe, de la gaze plissée et de la dentelle chantilly, des manches bishop et des cols croisés, À minuit, on est déglingué. On s'installe à la fenêtre pour voir le feu d'artifice. Je nous resserre du champagne. On trinque à notre nouvelle année. Elle se blottit dans mes bras. C'est bien que tu sois là. On se couche sur leur grand lit, de part et d'autre de monsieur. Il me reste de l'herbe, vous voulez goûter ? Elle s'est endormie dans sa robe de bal, les mains posées sur le torse de son homme. Elle ronfle déjà. Je les prends en photo avec le Nikon F qu'elle m'a offert à Noël, puis je fume un pétard pour fêter nos fiançailles. Au troisième étage, l'air est climatisé. Ça évite aux mouches de s'attarder. Les chambres des enfants que monsieur et madame Martin n'ont pas eues sont devenues une longue pièce aux fenêtres condamnées, équipée de spots encastrés dans le plafond et de baffles intégrés. Au fond, une écharneuse de taille moyenne. Au centre, une table en acier. Contre les murs, des étagères métalliques encombrées de bocaux et de bassines, de rouleaux de fil de fer et de tuyaux en plastique. Par terre, sur le vieux plancher recouvert d'un lino qui continue à grincer, des énormes sacs d'alun ou de laine de bois, une marmite géante dans laquelle trempent des pots. Sur le bureau de madame, des pinces et des scalpels, une trousse de maquillage, des boîtes remplies d'yeux en verre et des éponges piquées d'épingles, un aérographe. Quatre scies accrochées au mur, trois crochets de boucher suspendus au plafond. Au bout du couloir, une armoire de congélation avec des tiroirs qui ressemblent à des cercueils, puis une salle de bain carrelée, pourvue d'une baignoire et d'un évier, qui communique avec une dernière pièce, peut-être une chambre d'amis. La collection de madame est conservée à 19 degrés. Les volets restent fermés. Dans le fond de la pièce, debout sur un tronc d'arbre, un renard aux yeux jaunes convoite à caneton à queue de chat. Sur l'appui de la fenêtre, un couple de corbeaux qui a remporté le premier prix du concours des corbeaux en 2003. Dans un coin, trois matous à l'air féroce poursuivent un bébé siamois qui tente de s'échapper. Un hamster à tête de mésange courtise un écureuil avec des ailes de chauve-souris. Plus loin, un ringondin se dévore les entrailles à côté de Ludwig, le labrador de monsieur qui s'étire en bâillant. Il y a aussi un castor qui ronge sa carapace, une fouine au regard triste, un hérisson qui se promène au milieu. Face à moi, perché sur une tige de bambou, un pigeon à deux têtes m'observe en ricanant. Je caresse le lapin de la voisine qui ne fugra plus. Madame s'est exercée pendant de longues années. Seule dans son atelier, elle a passé chaque soir que monsieur s'absentait à décoller des pots, puis à les faire tremper. Pendant des heures, elle a raclé des chairs et vidé des crânes. Elle a cousu des dépouilles sur des mannequins. Elle a modelé des cuisses et des narines. Pendant plus de 40 ans, elle a passé ses soirées de solitude à écouter les symphonies de Bruckner, focalisées sur les détails qui narguent la mort. Les plis de la peau et le tracé des veines, la couleur des caroncules. Elle a appris seule, avec des vieux bouquins de taxidermie. Elle a acquis chaque geste et chaque technique, les différentes recettes et les petits secrets. Elle a merdé, puis recommencé, des milliers de fois, inlassablement, jusqu'à rendre aux cadavres la vie qu'elle leur avait ôtée. Il faut des années de patience et de dextérité avant de maîtriser l'art de ressusciter les morts. Je suis une élève douée. La première fois que j'ai vu un mort, c'était Monsieur Dezoteux. J'avais 8 ans. C'était un samedi matin du mois de mai. Il pendait au bout d'une ceinture dans sa cage d'escalier. Son corps flottait au milieu d'un rayon de soleil. Ses pieds arrivaient à hauteur de mes yeux. Il avait gardé ses chaussures, des vieilles baskets trouées au niveau du gros orteil. J'ai passé une partie de mon enfance dans le salon de Monsieur de Zoteux. Pas mal de temps dans sa chambre aussi, à jouer à chat. Il habitait à 10 minutes à pied de notre immeuble, dans une bicoque qui avait l'air abandonnée en bordure de la grande route. Il fallait traverser le terrain de foot en contrebas de l'école, puis suivre une longue allée d'orties. Sa porte était toujours ouverte. On était plusieurs gamins à traîner chez lui après les cours et pendant le week-end. J'étais sa préférée. Je passais tous mes samedis là-bas. Il refusait l'entrée à mon frère. Il l'avait menacé de le découper en morceaux s'il s'en prenait encore à moi. Ce jour-là, j'ai direct compris, parce qu'il m'avait montré la ceinture quelques jours plus tôt et qu'il m'avait expliqué comment faire. Sur le moment, je ne me suis pas sentie triste. Je n'ai pas paniqué. Je me suis assise dans les escaliers pour observer son visage bleu et boursouflé. Je n'avais pas peur. Je voulais voir à quoi ressemblait la mort. J'ai touché son front. C'était froid et granuleux. Puis j'ai bu un verre de grenadine. Monsieur de Zoteux m'avait laissé 2 mots sur la table de la cuisine. « Serre-toi ». Il savait que ce serait moi la première à le trouver. J'ai pris son portefeuille sous le bonnet du Père Noël en plastique accroché dans la buanderie. J'ai empoché la thune, 2 billets roses qui m'ont semblé une fortune. Puis je suis rentrée prévenir ma mère. Elle m'a filé une raclée. Je n'ai pas pleuré. J'ai refait le trajet en courant et je me suis enfermée à clé. Je suis restée un long moment à réfléchir. Des gamins sont venus frapper à la porte. J'ai attendu qu'ils s'éloignent et j'ai passé toute la barre à corps vu. C'était une grande maison humide, pourrie par endroits, encombrée d'un tas de bordel qui me ravissait. J'ai trié ce qui m'intéressait, principalement des bandes dessinées érotiques et des statuettes de Madonna, des lunettes de soleil et des boîtes de conserve. J'ai rassemblé le tout dans un édredon que j'ai traîné dehors jusqu'à la cabane à outils. J'ai planqué mon trésor sous une bâche pour plus tard. Puis j'ai fermé la maison à double tour. Je voulais être la seule à garder notre secret. En rentrant chez moi tard dans l'après-midi, j'ai planqué les billets entre mon matelas et mon sommier et j'ai concocté un plan d'évasion. Le lendemain, j'ai fugué avant que ma mère ne se réveille. J'ai pris le bus jusqu'à la gare, puis un train vers Ostende. Je voulais embarquer à bord d'un paquebot blanc qui scintille dans la nuit. Les flics m'ont ramené le soir même. Ma mère m'a filé une raclée. J'ai chialé pour de bon. Les pompiers ont retrouvé Monsieur de Zoteux 2 mois plus tard, en partie décomposé. Ma mère m'a interdit d'aller à son enterrement à cause de la réputation qu'il traînait dans le quartier. Mon frère a recommencé. J'ai attendu d'être grande pour me venger.